des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Depuis la nuit des temps, les religions ont cherché à répondre aux peurs existentielles de l'homme. Peur de la mort, de l'inconnu, de la souffrance, du mal. À partir du 19e siècle, cependant, les religions ont commencé à perdre de leur influence. Les peurs en auraient-elles profité pour gagner du terrain? C'est ce que nous allons voir dans notre deuxième émission consacrée à la peur et au sacré. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est sur une peur bien contemporaine, une peur théorisée entre autres par Pablo Servigne, inventeur du terme « collapsologie », l'effondrement de notre civilisation et de notre mode de vie. On l'écoute.
Un paramètre important, mais il y a par ailleurs, et c'est lié avec le climat aussi, il y a des effondrements dans la biodiversité, enfin les populations d'animaux, d'écosystèmes. Et puis il y a toutes les tensions géopolitiques, la question des ressources, du pétrole, du charbon, du nucléaire, et de la finance extrêmement fragile. On le voit aujourd'hui avec le coronavirus, qui est finalement un événement ponctuel, mais qui radiographie notre fragilité, la vulnérabilité de notre monde, de monde moderne, interconnecté, avec des flux tendus, et une économie finalement paradoxalement puissante et fragile. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on peut être à la fois catastrophiste, c'est-à-dire penser, ressentir la fin du monde ou la fin d'un monde, et être tourné vers l'action, vers un désir de plus de démocratie et de justice sociale. Sobra suba, la peur et le sacré, deuxième partie, c'est évidemment en compagnie du docteur Dominique Desmichel. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors Pablo Servigne, le pape de la collapsologie, c'était un extrait d'un entretien sur Euronews, parle de notre monde interconnecté et nous sommes en plein dedans parce que c'est en distanciel, comme on dit aujourd'hui, que nous allons assurer cette émission.
Voilà, c'est ça. Donc, on n'est pas face à face dans un studio, mais vous, dans le dessus d'enregistrement, enfin, j'imagine d'ailleurs, puisque
ça,
je ne vous vois pas.
Et
puis, moi, devant mon ordinateur, qui est quand même, grâce à Internet, nous permet de converser. Ben, par rapport à la collapsologie, moi, j'avoue que deux choses. La première, c'est que je m'inscrirais volontiers dans ce que disait le philosophe italien Gramsci autour du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire voilà, à être relativement d'accord pour dire pensons le pire. Pensons le pire, voilà, peut-être disparition de 40% des vertébrés depuis 40 ans, ça fait quand même énormément froid dans le dos. Et je pense que ce discours alarmiste, ce discours sous certains aspects un peu pessimistes des collapsologues, peut amener en tout cas à réfléchir. A contrario, je dirais, ce n'est pas trop dans mon tempérament que de baisser les bras, donc j'aurais envie de dire, essayons de voir tout ce qu'il y a à faire. Et par rapport à cette biodiversité qu'il cite, dont il parle dans cette interview que vous venez de passer, je pense qu'en effet, il y a encore, semble-t-il, beaucoup de choses à faire pour la préserver. On ne peut pas non plus exclure quand même que cette épidémie qui arrive là soit uniquement le fruit d'un hasard comme la peste noire ou la grippe espagnole en 1918 ou la peste noire à partir de 1348. Hein. Peut-être au fond dans cette multiplication des échanges, dans cette non-séparation du monde animal et du monde humain, et puis je rajoute plein de choses, ou plus exactement, je ne suis pas dans la capacité et la pertinence pour en rajouter, il y a peut-être quelque chose qui se tient. Donc, j'allais dire, peut-être gardons cette intelligence vive, critique par rapport à notre monde, en envisageant le pire, j'allais dire pas pour se terrer dans une retraite tranquille, égoïste et finalement sordide, mais au contraire remontant nos manches, il me semble.
Alors, évidemment, pour conjurer cette peur de la fin de notre monde, Pablo Servigne ne préconise pas des sacrifices aux dieux ni des hécatombes, mais il préconise plus de démocratie. Enfin, voilà, on sent bien dans ce qu'il propose que la religion et le sacré n'a plus beaucoup de place.
Ce que je crois, c'est que quand la nuit arrive le soir, lorsque la foudre s'abat pas très très loin, lorsque l'hiver s'attarde, lorsqu'il y a un raz-de-marée qui détruit une côte, lorsqu'il y a une éclipse qui accomplit son job et au fond assombrit le soleil, quand un cataclysme arrive, quand une épidémie comme celle-là arrive, on est amené à réfléchir. Et il me semble que là, si la peur, l'anxiété et l'angoisse sont convoquées, en même temps, il y a une interrogation sur le sens de tout ça. Et là, il me semble, la transcendance est convoquée, hein. Je pense que cette peur, vous l'évoquiez lors de la dernière émission, lorsque l'irreprésentable, l'inimaginable, l'impossibilité à tenir quelque chose est ressentie cruellement par nous autres humains, alors on a envie de se tourner vers le sacré. Et je pense d'ailleurs que ce sacré, il vient nous nourrir, il vient nous fasciner et en même temps il nous effraie justement parce qu'il est aussi cet inconnu. Il est ancré sur la peur. D'ailleurs, je pense une grande partie du succès des religions, ça a été de surfer hein, sur cette peur dans une espèce de, on pourrait dire, d'heuristique de la peur, avec parfois une composante tout à fait abusive, si ce n'est perverse. Hein.
Alors, docteur Dominique Desmichel, nous l'avons vu dans notre précédente émission, en relatant rapidement les cosmogonies d'Hésiode et puis la Genèse, nous avons vu comment les religions abordaient ces problèmes de la peur et puis de la mort. Mais évidemment, chaque civilisation répond à sa manière à la question de la peur et de la mort, et les Vikings n'avaient pas forcément les mêmes réponses que les Juifs, par exemple.
Non, les Vikings, vous savez, c'est une civilisation du nord de l'Europe, hein, des trois grands pays du nord de l'Europe. C'était des excellents marins, ils étaient extrêmement, extrêmement forts. Ils arrivaient dans des contrées, ils pillaient, ils allaient en particulier souvent attaquer les monastères, ils y mettaient le feu d'ailleurs, hein, c'est très spécifique, voilà. Mais eux, ils adoraient le soleil. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une éclipse de soleil, ils créaient ou ils chantaient ou ils récitaient des hymnes ou des chansons pour que le dieu noir, en l'occurrence une lune qui passe devant le soleil, ne vienne pas manger l'astre du jour. Et on retrouve ça d'ailleurs chez une grande partie des medicine man, des chamans, de tous ces gens qui sont là pour tenter de faire le lien entre le sacré et le profane, entre les divinités ou la divinité et puis les humains. Probablement d'ailleurs, au Moyen-Âge, les sorcières faisaient partie de ces femmes qui avaient peut-être ce don de sentir, je dirais avec notre langage actuel, une grande intuition, une perception de l'autre, et en même temps, parce que peut-être elles avaient justement cette part mystique à l'intérieur d'elles-mêmes ou cet accès au divin ou au sacré, elles ont pu être aussi brûlées en raison de cette peur diffuse, de cette société moyenâgeuse qu'on a souvent dans notre imaginaire associé à la fin de la journée ou à la nuit. Hein.
On comprend bien que l'essentiel, enfin une partie de l'essentiel dans les religions, c'est justement la communication avec les dieux. Donc on parle de chaman, oui. De musique, la musique très importante, la liturgie, oui. Également, tous ces éléments qui sont les outils, les médias, j'ai envie de dire, de la religion pour communiquer avec les dieux.
Oui, tout à fait. Tout à fait, communiquer avec les dieux, attirer leur bienveillance, les rendre favorables, leur demander d'envoyer la pluie ou d'envoyer le soleil. Ou voilà, dans l'Égypte antique, par exemple, les Égyptiens attendaient les crues du Nil, parce que vous savez que le limon qui se déposait sur les rives donnait une terre extrêmement riche et permettait les cultures. Donc je crois que la peur et le divin sont étroitement associés. Et l'homme, quand il est traversé par la peur, s'ouvre à autre chose. Et il me semble que, en tout cas dans sa dimension générale, et j'allais dire laïque, hein, je rappelle, je crois que c'est Jean-Louis Schlegel, là, le sociologue des religions, qui le disait, le sacré n'a pas besoin du religieux, le sacré existe, voilà, la vie est sacrée, et indépendamment de toute religion, en tout cas, c'est quelque chose qui reste très prégnant à notre époque. Je crois que le sacré trouve son origine dans les énigmes de la vie, au cœur de cette même peur qui contient au fond toute énigme. Et l'énigme, hein, le mot est compliqué au départ, mais en tout cas, c'est et ce qui fascine et ce qui effraie. Voilà. Donc, le sacré, on l'avait dit la dernière émission, c'est probablement ce qui émerge à partir du moment où il y a une interrogation sur la mort et où l'homme enterre pour la première fois, s'il y a eu une première fois, il y a sûrement eu une première fois en tout cas, ce qu'il aime.
Ce qui vous permet d'écrire, docteur Dominique de Michel, le sacré serait motivé et traversé par la peur, motivé et traversé.
Oui, motivé parce que l'origine du sacré, ce sont justement ces interrogations. Hein, ces interrogations, mes enfants, c'est sacré. C'est-à-dire, il y a quelque chose de cette vie qui se prolonge à travers moi. Lors de l'émission précédente, Jean-Pierre Vernant a parlé de cette filiation. Hein, c'est-à-dire, il a dit le père attend le fils, qu'il assure la continuité de lui-même, mais aussi la continuité de la vie, la continuité de l'existence. Et il va demander à la femme d'être celle qui va porter cette vie. Hein, on est dans une société du néolithique, donc probablement patriarcale, même si probablement les sociétés, on n'est sûr de rien, d'avant le néolithique, donc au-delà de 10 000 ans avant Jésus-Christ, étaient probablement matriarcales, parce que peut-être seule à cette époque-là, dans l'imaginaire des contemporains, la femme portait la vie. Donc, en effet, motivé et sacré, parce que le sacré trouve son origine dans cette énigme même de la vie, et en particulier de la vie au moment du mourir. Hein. D'où l'idée que ce qui motive le sacré, c'est peut-être au fond la première tombe ou la première interrogation qui contribue à faire cette première tombe et à ne pas dire voilà, celui qui m'a élevé ou mon frère ou ma sœur qui vient de mourir parce que la foudre est tombée sur sa tête, je le laisse là. Non, je ne peux pas le laisser là, donc je l'enterre, c'est-à-dire je le fais revenir dans cette terre maternelle des origines. Et puis vous dites motivé, donc c'est ce qui entraîne le premier mouvement, et aussi traversé parce que le sacré se nourrit de cette énigme, il se nourrit du mystère, il s'ouvre à l'étonnement. Hein. Et d'ailleurs, il me semble que c'est l'expérience, il me semble, des poèmes, dont on sait que les poèmes ne disent jamais quelque chose complètement, ils restent toujours avec un sens caché qui échappe probablement même au poème. C'est vrai aussi pour la musique. Hein. Dans la musique, il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure de cette communication avec les dieux. D'ailleurs, la musique qui était d'abord des percussions probablement, la musique au départ, ça n'était fait que pour ça, c'est-à-dire pour communiquer avec les dieux, le son montait vers le ciel, c'est-à-dire dans ce lieu qui était, en tout cas à l'époque, et qui reste dans notre imaginaire, la demeure des dieux.
Alors, même si, si on peut dire effectivement que le sacré n'a pas besoin de religion, cependant, les religions, et je le dis sans ironie, sont des professionnels, entre guillemets, du sacré. Ce sont
Oui.
les détenteurs des rites, les organisateurs de la liturgie,
Voilà.
et puis ceux qui sont aussi, qui s'appuient sur la tradition, qui détiennent les secrets de la tradition. Et tout ça, c'est extrêmement important, et ça a perduré pendant des millénaires.
Je pense qu'en effet que le fonds de commerce, là aussi je dis ça sans ironie, de la religion, c'est de mettre en scène le sacré et dans cette mise en scène du sacré, par l'intermédiaire de textes, par l'intermédiaire de récits, par l'intermédiaire de rites, comme vous venez de le souligner, de tenter de répondre à quelque chose. Et l'essentiel de ces textes sacrés, ce sont quoi? Eh bien, ce sont des mythes, hein? Le mythe de Adam et Ève, tout le monde sait que, sauf peut-être certains fondamentalistes ou créationnistes américains ou ailleurs, Adam et Ève n'ont pas existé en tant que tels. Il n'y a pas un jour Dieu qui s'est dit, tiens, trois petits points, comme il n'y a pas de Zeus qui s'est dit, tiens, je vais m'occuper de Prométhée, d'Épiméthée et de Pandora. Donc, en effet, il y a dans le travail des religions la création de textes, ça ce sont les mythes, il y a les mythes grecs, il y a les mythes égyptiens, il y a les mythes latins, il y a les mythes juifs, il y a le mythe chrétien, hein, en tout cas moi je dirais bien que c'est un mythe, ça n'est pas du tout réducteur quand je dis ça. Deuxièmement, il y a le rite, et cet ensemble de rites, c'est de mettre en scène par une gestuelle particulière, cette interrogation autour du sacré. Et puis, comme vous dites, il y a la transmission, il me semble que c'est ce que vous vouliez dire quand vous parliez de tradition, c'est-à-dire il y a un savoir qui s'accumule, il y a une expérience qui s'accumule et qui se met en scène dans la tradition. Alors, la tradition, elle a son côté positif, dans le sens où, comme les rites, elle assure la continuité d'une histoire et d'une mémoire, et elle a ses ombres parce que de temps en temps, elle est un discours dogmatique et on sait bien que le dogme, ça ne sert pas à grand-chose. Le doute est souvent plus utile. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça. Il disait, le doute ne rend pas fou, ce sont les certitudes qui rendent fou, hein, je crois. Donc le mythe, c'est en effet une tentative de dire quelque chose pour répondre à cette peur archaïque ou plus exactement à cette angoisse archaïque face à la mort. Et puis, il y a aussi, peut-être c'est aussi ce que vous disiez du côté de la tradition, il y a aussi cette expérience, hein, cette expérience individuelle que peut-être on a tous un petit peu, que certains, en particulier les grands mystiques, ont eu plus et qu'ils partagent avec nous.
Alors c'est bien que vous ayez cité Nietzsche parce que c'est quand même lui qui dit que Dieu est mort. Alors évidemment, il ne pense pas à Dieu quand il dit ça, il pense probablement à la
Oui.
religion. En tout cas, la modernité fait un grand pas en dehors de cet espace du sacré. Mais alors, toutes ces questions qui nous restent sur la peur, sur la mort, elles sont encore présentes, elles ne disparaissent pas pour autant.
Non, 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 non. Vous savez que c'est Marcel Gauchet, en reprenant les thèses de Max Weber, qui a dit le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Il voulait dire que pendant très très longtemps, les religions, on va dire, mettons, le christianisme, ont donné une méthode pour penser, hein, et que voilà, mes parents ou mes grands-parents, ils n'avaient pas du tout de doute quant à l'existence du paradis ou de l'enfer et du purgatoire même si c'est une invention au moment du Moyen Âge. Il faut se rappeler que saint Augustin disait il n'y a que deux lieux, hein, où on va là, mais il n'y a pas de lieu intermédiaire. Il me semble que moi, quand j'étais petit, évidemment, je fais partie des Sexa et vous êtes plus jeune que moi, mais quand j'étais petit, j'ai appris l'histoire d'Adam et Ève et que pendant un certain temps, j'ai dû croire sincèrement, et peut-être même un petit peu après mes 7 ou 10 ans, que Adam et Ève avaient existé. Ce qui est sûr, c'est que la grande majorité des religions, sauf peut-être au cœur de celles qui ont une très forte tradition mystique, c'est-à-dire chez lesquelles l'expérience intérieure est essentielle, dominante, si ce n'est exclusive, la grande majorité des religions actuellement n'offrent plus ce cadre de pensée, d'une part, mais surtout, il n'offre plus ce cadre d'expérience du sacré. Et ça, ça me paraît problématique. C'est-à-dire, le christianisme, parfois, on a le sentiment qu'il se réduit à une composante sociale, une composante culturelle, que tout est marqué par le pourvu, par le pouvoir, par des rituels un peu répétitifs, et qu'au fond, l'extraordinaire puissance symbolique et créatrice, par exemple, du judaïsme et du christianisme, se sont perdues au profit tragique d'une morale prééminente, coincée, et qui n'ouvre pas à une liberté, mais qui, au contraire, enferme dans un corpus dogmatique de comportement.
Nous voyons bien aujourd'hui une nouvelle forme de religion qui est beaucoup plus extrême, qui apparaît. Je pense évidemment aux terroristes islamistes, mais on le retrouve aussi dans d'autres religions. On est loin, encore une fois, là, de la recherche d'un espace sacré et d'une relation vrai.
Vous savez, il y a une double étymologie dans le mot religion. Hein. Il y a religare et religere. Religare, c'est-à-dire relier. Religere, c'est relire. Donc, le travail du religieux, c'est probablement de faire des liens. Et les rites, on l'a vu, c'est quelque chose, ça c'est Lévi-Strauss qui dit ça, ce sont un ensemble d'attitudes ou de comportements qui assurent la continuité. Et religere, c'est relire, c'est-à-dire, et on voit ça vraiment dans toute l'herméneutique juive, l'herméneutique rabbinique en particulier, c'est-à-dire on regarde les textes, on réécoute, on s'interroge inlassablement. On n'a jamais fini, on parlait la dernière fois de Utiche Isha, la dernière émission, c'est-à-dire de Adam et Ève, mais ma proposition de lecture, c'est juste une parmi d'autres. Chacun peut se réapproprier ces textes. Donc il me semble que chez les fanatiques, on n'est pas, je ne suis pas sûr que ces gens-là soient en tout cas religieux. Je pense qu'ils sont d'abord et avant tout des fanatiques, c'est-à-dire ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi ou ils n'ont pas été aidés ou accompagnés dans un travail de lecture en profondeur, vous voyez. D'où l'idée de retrouver à l'intérieur de soi-même une expérience du sacré, d'un sacré peut-être plus pur, peut-être plus primitif, peut-être plus sauvage, peut-être plus, ouais, je dirais peut-être plus pur, voilà. Donc il me semble que, hein, comme récemment un homme jeune de 18 ans qui commet un assassinat, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il est habité par sa religion, non. Il est possédé par une idéologie. C'est autre chose, il me semble.
Alors, on a beau dire que Dieu est mort depuis bien maintenant plus de 100 ans, pourtant, on n'a jamais vu autant de soif de spirituel dans notre société d'aujourd'hui. Et pour preuve, eh bien, tout ce qui touche au bien-être, qui est très souvent lié à la spiritualité, je pense aussi aux médecines traditionnelles qui reviennent en force, et puis au nombre de magazines, eh bien, qui fleurissent dans les librairies et qui ont pour sujet la spiritualité. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ?
Je ne sais pas. Ce qui me semble, c'est, je reviendrai à une autre approche qui serait la question du désir. Dans la question du désir, il y a ces désirs de base. Il y a la pyramide de Maslow, par exemple, qui est que il faut pouvoir se nourrir, vivre, se soigner, ne pas avoir froid, etc., et avoir une certaine sécurité de l'existence. Mais dans le désir, il y a aussi une interrogation du côté du sens de l'existence. Hein. Je discutais le week-end dernier avec une amie qui a beaucoup, beaucoup de travail et on discutait sur l'essentiel. Et au fond, je sentais qu'il y avait des larmes qui venaient dans ses yeux et elle me disait « Moi, j'ai l'impression de ne pas arriver à m'occuper de l'essentiel. Je sais que c'est là, mais mon travail me prend trop. » Donc, par rapport à ce désir, par exemple, la société de consommation a proposé une sorte de réponse. Sauf que la réponse, elle n'est pas du côté du bonheur, elle est du côté du plaisir. Elle vient stimuler dans le striatum le circuit de la récompense. Ça, c'est dopaminergie, c'est comme se doper, et on se dope à la consommation. Mais il n'en reste pas moins que reste à côté une interrogation du côté du sens. Et du côté du sens, ça vient en effet interroger aussi le sens de la vie. Il y a en effet certaines formes de religion qui font peur actuellement, très identitaires, fondamentalistes, dogmatiques. Et puis d'un autre côté, il y a une autre approche qui a envie de rejoindre la dimension spirituelle. Et d'ailleurs, probablement, cette expérience spirituelle intérieure, quand bien même elle serait pour la majorité d'entre nous, il me semble, très modeste, très partielle, et il faut le dire de manière très, très humble, mais vraiment, elle peut être une tellement belle expérience. Il me semble, elle est l'antidote fondamental des ombres, des religions, en particulier des religions dans le sens institutionnel du terme.
Et les psys, docteur Dominique Desmichel, dans tout ça, ils sont nés, eux, au XXe siècle, à l'époque justement où l'on a dit que les religions étaient mourantes.
Il y a une petite blague juive qui dit, je crois, quelle est la différence entre un tisseur d'étoffe et un psychanalyste? Et la réponse, c'est une génération. Pourquoi? Parce que il me semble que le travail du psychanalyste, c'est essentiellement de relier, hein, et dans relier, on voit religuérer, relier. Et il est aussi d'essayer de relire quelque chose du côté de son existence. Donc au fond, celui qui tisse avec des fils et qui fait une étoffe, et le psychanalyste qui essaye d'inviter l'autre à relire sa propre histoire pour réhabiliter sa mémoire de manière à lui donner du sens, eh bien, au fond, c'est le même job. Donc dans ce sens-là, j'aurais envie de dire que par exemple, la confession, c'est une sorte d'anticipation du travail que l'on va faire chez le psy. On ne va pas se confesser chez le psy parce que l'enjeu du bien et du mal ne se situe pas du tout au même niveau et qu'on est là pour essayer de comprendre et non pas pour se donner des coups de bâton et ensuite faire amende honorable ou réciter son chapelet en sortant de chez le psy. Mais en effet, je trouve que ce que vous dites est vraiment intéressant parce que il y a un lien entre les deux et probablement à un certain moment où la fonction de religarer et de religuérer du religieux a perdu sa composante structurante, sa composante donneur de sens, donneur de vie, alors probablement les gens se sont tournés vers leur intériorité. J'allais dire, et Freud a découvert qu'il y avait un inconscient. Mais peut-être que on peut dire que l'inconscient, c'est le rapport au sacré, que c'est le rapport au divin. Vous voyez, des tas de choses comme ça.
Docteur Dominique Desmichel, on arrive au terme de cette émission et j'aimerais bien pour conclure qu'on laisse peut-être la parole à un grand poète contemporain, Philippe Jacquotet. Et c'est vous, docteur Dominique Desmichel, qui allez lui prêter votre voix.
Et donc, je propose pour les éditeurs de lire ce petit poème qui est très court, de le lire deux fois, parce que Jacquotet, ce n'est pas toujours très simple à saisir. J'aurais voulu perler, sans image, simplement. Pousser la porte. J'ai trop de crainte pour cela, d'incertitude. Parfois de pitié. On ne vit pas longtemps comme les oiseaux dans l'évidence du ciel. Et retombés à terre, on ne voit plus en eux précisément que des images ou des rêves. J'aurais voulu perler sans image. Simplement pousser la porte. J'ai trop de crainte pour cela, d'incertitude, parfois de pitié. On ne vit pas longtemps comme les oiseaux dans l'évidence du ciel. Et retombés à terre, on ne voit plus en eux précisément que des images ou des rêves. Voilà, Philippe Jacquotet dans un recueil qui, je crois, s'appelle À la lumière d'hiver.
Docteur Dominique Desmichel, un grand merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Au revoir Simon et merci à vous aussi.